Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Éric Sadin, qui publie « Surveillance globale, enquête sur les nouvelles formes de contrôle » aux éditions Climat. C'est un peu comme quand on est au bord d'un lac en train de s'assécher. Au début, vous ne vous en rendez pas compte, et un jour, le lac est presque sec. L'enseignement vous occupe un peu, Éric Sadin, en France, à Toulon, en Suisse, à Lausanne et de temps en temps au Japon. Mais c'est toujours le même cours que vous faites d'un pays à l'autre ?
Ah non, 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 ce sont rarement des cours, ce sont plutôt des moments de recherche comme ça, selon mes désirs, selon des événements et que j'essaie de mener d'une façon ouverte avec les étudiants. Et évidemment, ça, c'est jamais la même chose, que ce soit... Alors, selon les moments, que ce soit à Toulon, à Lausanne et au Japon, où les structures de pensée sont tellement différentes.
Mmh. Mais vous avez un champ d'investigation bien particulier.
Disons que les conditions contemporaines de l'écrit, tellement transformées depuis une quinzaine d'années... ont constitué depuis une petite dizaine d'années pour moi un champ d'exploration privilégié. Et c'est ces conditions tellement, tellement bouleversées, transformées, dont on ne cesse de parler, hein, et dont j'avais eu le sentiment, quelque part vers la fin des années 90, qu'il se jouait là quelque chose de décisif, et il se jouait quelque chose de décisif pour la littérature aussi.
D'ailleurs, vous avez organisé des colloques internationaux sur la question. Il y en a un qui s'est tenu à Montréal il y a 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans.
En 2001.
Textualité et nouvelles technologies, hein, c'est son titre. Un autre, alors, c'est celui-là qui s'est tenu il y a 3 ans à Orléans. Physique virtuelle. Et puis, à Paris, l'an dernier, Global Paranoïa, forme et puissance de la surveillance contemporaine. On s'approche du sujet dont nous allons parler ce soir.
Exactement, ça c'était au Palais de Tokyo. Mais à vous entendre, je me dis qu'il y a une articulation à laquelle je pense, là, qui est une sorte d'évidence dans ces trois moments-là. Le premier, c'était un colloque qui, à un moment où les choses étaient en gestation, qui voulait explorer comment, à l'intérieur de ce moment historique-là, les conditions de rapport à l'écrit... paraissait comme ça trembler sur toute la ligne, hein, les conditions de circulation des documents, les conditions d'archivage, la figure de l'auteur, le fait que la perception de l'écrit se faisait de plus en plus et se fait de plus en plus via l'écran, via l'imprimé, évidemment, mais aussi via l'écran, le fait qu'il y ait des jeux de copier-coller, de circulation de textes anonymes, voilà. Alors avec une trentaine de spécialistes, on avait fait ces recherches et ça avait été l'objet d'une publication dans la revue que j'avais créée à l'époque qui s'appelait Écart et qui a été prolongée après par un colloque sur physique virtuelle, c'est-à-dire que je m'étais dit que toutes ces données-là, tous ces enjeux-là n'étaient pas isolés, c'était pas le numérique, l'interconnexion n'était pas, ne constitue pas une sorte de champ comme ça considérable mais qui serait en tout état de cause de côté ou relatif, mais que toutes ces dimensions-là s'infiltraient aux espaces physiques, à l'habitat, à notre environnement contemporain, quand bien même on ne voyait pas les structures numériques. Mmh. Donc c'était une sorte de nouveau moment comme ça, de complexité, d'entrelacement qu'il fallait saisir et dégager. Et suite à ça, je me suis dit, avec ce travail sur la société de l'information, en tant qu'auteur, hein, c'est une position un peu complexe, peut-être je m'expliquerai sur cela, je m'étais dit, voilà, il y a toutes ces nouvelles dimensions à l'intérieur desquelles nous vivons, une nouvelle dimension de nos rapports à l'écrit, au texte. Et il y a une face, une sorte de face cachée. Et cette face cachée, ce sont toutes ces, notamment toutes ces données qu'en écrivant, par exemple, on écrit un email, on écrit un SMS, mais il y a de l'écrit qui apparaît, alors selon des formes, des modalités à la fois totalement nouvelles, et à la fois il y a des traces que nous ne cessons de disséminer. Je me suis dit que là, il y avait un enjeu à la fois anthropologique, technologique, culturel et littéraire qui me semblait capital.
Mmh. Et quelqu'un qui, comme vous, avait placé l'écrit et le texte au centre de ses recherches, doit certainement avoir envie d'écrire de temps en temps, et pas seulement des communications à des colloques. Surveillance globale, ce n'est pas votre premier livre.
Bien sûr que non, non, enfin bien sûr, non, non, ce n'est pas mon premier livre. C'est mon premier livre à achever, en tous les cas avec un tel volume d'ordre théorique. Hein. Et cette recherche théorique, initialement, elle prend son origine dans un projet de livre qui s'appelle Global Paranoia, que je vais faire paraître bientôt au petit matin, qui est un livre de poésie qui joue avec cet environnement marqué par la surveillance.
Ah, vous êtes poète.
Et de mon point de vue, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie d'envisager les choses, cette construction-là, poétique, appelle à une exploration théorique, de façon à explorer cet objet-là avec le plus de profondeur scopique et avec le plus de précision, d'étendue. Et cette double dimension entre le théorique et le poétique constitue une pratique qui, non seulement qui m'intéresse de plus en plus, mais qui me semble, à mes yeux, avoir une sorte de dimension indissociable actuellement.
En France, Éric Sadin, je me souviens qu'il y a 3 ans, vous avez publié chez POL un livre intitulé « Tokyo ». Parce que le Japon, c'est quand même le pays de la fascination pour vous.
C'est le pays de l'observation. Et évidemment qu'il y a dans un deuxième moment, il y a de la fascination. Il n'y a pas que de la fascination. Mais initialement, c'était l'observation. Alors, j'avais fait le pari, après ce colloque à Montréal en 2001, qu'il fallait observer un territoire de la planète où les conditions bouleversées de l'écrit pouvaient être observées, analysées d'une façon dense, d'une façon physique, par les yeux, par le corps. Et j'avais été quelques mois au cours de 2001 à Tokyo, et je m'étais dit qu'il fallait que je fasse une sorte d'étude. Et j'ai eu la chance d'aller à la Villa Kujoyama en 2002 à Kyoto. Et j'ai entrepris une étude régulière, patiente, qui a consisté à prendre des photos, des écrans géants, des téléphones portables, des enseignes, des bornes interactives, de la persistance de l'imprimé, ce qui m'a beaucoup marqué au Japon à cette période-là, où les choses étaient en gestation, où les bouleversements s'occasionnaient avec une sorte de brusque, avec des effets de brusque. Et alors, je voyais à quel point apparaissait un environnement complexe. C'est-à-dire que le numérique n'éloignait pas, ne faisait pas disparaître l'imprimé. Les gens lisaient beaucoup de livres dans le train, dans le métro, hein, avaient déjà leur petit portable, avaient des sortes de iPod. Enfin, c'était pas le iPod à l'époque. Enfin, il y avait des entrelacements extrêmement complexes entre l'économie du numérique et l'économie de l'imprimé. Et cet environnement-là, cette étude que j'ai pu faire, a donné l'occasion d'un livre théorique avec quantité de photos qui s'appelle Times of the Science, que j'avais publié l'année dernière chez Birkhauser, et a été l'occasion d'un ouvrage de poésie qui intitulé Tokyo, qui avait été publié en 2005 chez POL.
Alors Tokyo, Eric Sadin, c'était en 2005 chez POL, et Surveillance globale, c'est aujourd'hui chez Climat, et ce n'est pas un livre de poésie.
Ce n'est pas un livre de poésie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'origine est une volonté de construire un texte poétique et qui viendra dans un second temps. C'est un texte théorique. C'est un texte théorique qui...
Une enquête un peu.
Une enquête, une recherche qui vise à explorer cet environnement-là, contemporain, marqué par une imprégnation de plus en plus dense de procédures, de surveillance, de traçabilité à l'égard de nos comportements quotidiens.
À ce moment-là, c'est-à-dire un moment historique décisif.
Je pense. Décisif parce que, par une sorte de hasard historique, c'est comme ça, c'est l'histoire. Il y a, ce que je dis dans le livre, il y a une sorte de bouillon de culture idéal à l'extension ininterrompue de technologies de surveillance et de procédures de surveillance. Et ce bouillon de culture, pour aller très très vite, c'est trois données distinctes qui s'entrecroisent, qui sont sans rapport les unes avec les autres. La première, c'est l'architecture technologique. Alors, on pourra peut-être y revenir si vous le souhaitez. C'est l'architecture technologique qui est en place, hein, qui est extrêmement sophistiquée aujourd'hui, qui est efficace, qui a évidemment des manques, mais qui, dans l'ensemble, fonctionne très très bien. La deuxième, c'est l'instabilité géopolitique, hein, et le fait que les affrontements comme ça entre pays, affrontements frontaux, ont tendance à disparaître au profit de l'identification et la recherche de forces fragmentées, au profit de la lutte, sur laquelle il y aurait tant à dire, de la lutte contre le terrorisme ou d'aucun
voilà, appel. Il y a des dates historiques que vous citez qui sont évidemment décisives, la chute du mur de Berlin en 89 et puis le 11 septembre 2001.
Bien sûr. Il y a comme ça des dates qui ont concouru à ce qu'il y ait des... À l'intérieur de ce maelstrom-là, qu'il y ait des sauts. Alors 89, c'est la preuve manifeste qui était déjà en gestation, la preuve manifeste qu'il n'y a plus d'affrontement binaire. Il y a quantité de jeux de force.
C'est-à-dire qu'on est dans la fragmentation.
On est dans la fragmentation. On est avec l'illusion de croire qu'il y a eu l'hyperpuissance, etc. Enfin, c'est des choses sur lesquelles je suis... Enfin, voilà, c'est, l'enjeu me semble être la fragmentation des forces.
Et la furtivité
des rapports de force, hein, qu'il y a, voilà, et puis il y a 2001 qui a emblématisé le fait de la mobilité, de la furtivité, de la fragmentation, c'est-à-dire comment des individus éparpillés, en partie masqués, ont pu attaquer la première puissance économique et militaire de la planète. C'est un événement historique à l'intérieur de cette asymétrie-là qui est fascinant.
Donc, un phénomène d'atomisation depuis le début de ce nouveau siècle et une amplification incessante des nœuds de décision et d'expression.
Oui, c'est un fait que je pense que nous vivons encore, et particulièrement en France, avec l'illusion encore qu'il y a le pouvoir, hein, qui est une vieille expression des années 70, hein, le pouvoir. C'est toujours avec cette symbolique de croire que le président de la République a tant de puissance. Je pense que les choses ne se passent pas du tout comme ça aujourd'hui, et que justement ces jeux de fragmentation imposent quantité de rapports de force éparpillés qui doivent nous encourager, en tout cas c'est comme ça que j'essaie de percevoir les choses, à envisager les données à l'intérieur de rapports de force éparpillés, ajustés, constitués selon les moments et non pas acquis selon une figure omnipotente et les individus d'un autre côté. Et ma recherche sur les technologies de surveillance m'ont confirmé cela aussi.
Oui, parce que la conséquence, c'est la dispersion des risques, évidemment, de toute nature. Et c'est pour répondre à cette dispersion, un peu, qu'on surveille.
Exactement. Il y a une dispersion des risques. Alors, il y a à la fois une dispersion de l'origine des risques, hein, on l'a dit. Hein, aujourd'hui, on ne sait pas où est le risque. Alors ça encourt évidemment à une paranoïa généralisée. Et à la fois, il y a quantité de types de risques. Hein, risque terrorisme, risque de terrorisme bactériologique, risque des substances, des nanoparticules, risque de d'ailleurs qui appelle à ce fameux en retour hein, de paranoïa de la protection, le principe de précaution. Il y a, enfin, je n'invente rien en disant cela. Je l'ai ô combien découvert aussi au cours de ces recherches. Nous vivons une période éminemment anxiogène avec des parfois avec des raisons légitimes hein, et parfois avec le privilège accordé à la peur au détriment de la capacité libre et ouverte de l'initiative.
Une des fonctions majeures de la surveillance, ça consiste à identifier la menace avant qu'elle ne se produise.
Ça, c'est une dimension capitale. En tous les cas, de la surveillance contemporaine. Historiquement, ça l'a toujours été. Hein. Il y a des miradors ou des envoyés comme ça, pour des messagers pour aller voir la menace, les armées ennemies. Aujourd'hui, cette notion d'anticipation est une dimension capitale de la surveillance, c'est-à-dire de récolter le plus d'informations à l'égard des individus en vue d'intervenir, alors d'un point de vue sécuritaire, en vue d'intervenir avant la réalisation, mais de laisser les choses se développer le plus possible, hein, de façon à ce que des cartographies relationnelles entre individus supposés dangereux puissent se dessiner et de pouvoir éventuellement arrêter le plus grand nombre de personnes mises en cause. Et puis aussi d'un point de vue marketing, car le marketing est un axe essentiel de la surveillance contemporaine, d'anticiper les désirs d'achat des consommateurs. C'est une des données capitales de la surveillance, marquée par le fait de l'avant, de l'anticipation.
Et d'élaborer évidemment des systèmes techniques de plus en plus performants.
Absolument, d'élaborer des systèmes qui visent alors à la fois individualiser chaque comportement avec des technologies qui le permettent, c'est-à-dire encore toutes les traces que nous disséminons d'ordre commercial, thérapeutique, nos transports, nos impôts, notre sécurité sociale, quantité de traces éparses qui sont récoltées, traitées, là aussi de façon éparse, hein, il n'y a pas de serveur global centralisé, mais qui permettent de constituer, aussi bien d'un point de vue sécuritaire que d'un point de vue marketing, des profils.
Le sous-titre de votre livre, Éric Sadin, c'est « Enquête sur les nouvelles formes de contrôle ». Et à l'instant, vous parlez de surveillance. Vous faites une distinction entre le contrôle et la surveillance ?
Je fais une distinction. Alors, je dois confesser, mais c'était plutôt bienvenu, que le sous-titre est une suggestion de mon éditeur. Et j'avais dit qu'il y a un distinguo capital entre surveillance et contrôle. Surveillance, c'est l'observation. L'observation, la récolte, l'analyse, le traitement et des alertes qui peuvent être faites en fonction de ce qui est observé et saisi. Le contrôle, c'est autre chose. C'est la capacité à laquelle je ne crois pas du tout, mais beaucoup de gens y croient, mais moi je n'y crois pas du tout. Et les recherches que j'ai pu entreprendre n'ont fait que le confirmer. C'est l'illusion, je parle d'illusion, de croire qu'on peut maîtriser les consciences. Mais ça, je n'y crois pas une seule seconde. D'ailleurs, je pense que Michel de Certeau n'a pas été assez lu dans notre pays sur ces analyses formidables qu'il a faites, notamment dans l'invention du quotidien, les arts de faire. C'est-à-dire la capacité individuelle et singulière de chacun à rejouer les situations, à ne pas se plier aux protocoles techniques, à ne pas être dépendant ou le jouet de situations, mais à pouvoir agir à l'intérieur de ces situations. En revanche, la surveillance, c'est-à-dire la traçabilité, la récolte, l'analyse, la capacité actuelle de pouvoir tresser des profils personnalisés, cela est une dimension capitale et de plus en plus expansive.
Grâce à l'interconnexion, au maillage électronique intégral auquel il est procédé avec l'extension du numérique.
Et ce dont vous parlez là, c'est une donnée avec laquelle nous vivons aujourd'hui qui relève de l'évidence, mais qui est extrêmement récente. Hein. Cette interconnexion généralisée, c'est-à-dire que des points comme ça soient reliés entre eux sur la totalité de la planète par des antennes, par des fibres, par des câbles, c'est très 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 récent. Ça a seulement une quinzaine d'années, c'est généralisé. Et évidemment, cela favorise, encourage la capacité, avec l'utilisation que nous ne cessons de faire, de ces outils interconnectés hein, qui accompagnent nos vies quotidiennes, possibilité, ça étend et confirme et standardise la capacité de récolter des traces.
Oui. Mais on parlait de fragmentation tout à l'heure, et là, ce qui se produit, c'est une super architecture universelle.
C'est une super architecture universelle qui est au point. Alors, c'est l'interconnexion, c'est la géolocalisation, le fait que de plus en plus, les corps... Hein, et quand je dis les corps... Nous parlions de fragmentation, c'est les corps individualisés. Ça, c'est une nouvelle capacité technique contemporaine, notamment par les puissances de traitement. C'est-à-dire de dire que tel individu a tel comportement, telle communication, tel achat, tel goût, tel déplacement. Et donc, à la fois, il y a cette architecture et à la fois, elle est encore fragmentée et atomisée par autant de nombres d'individus. Donc, il y a cette tension entre architecture universelle qui comprend géolocalisation, vidéosurveillance, base de données, puces RFID sur lesquelles peut-être nous dirons des choses, et à la fois, qui rend possible une relation avec autant d'individus singuliers. Qui tous, vous et moi, utilisons, tendanciellement, et quand même, il y a sur la planète des phénomènes sur lesquels, qui nous paraissent évidents, mais qui sont incroyables. Par exemple, nous savons que le téléphone portable s'est étendu en moins d'une dizaine d'années en milliards d'unités. Enfin, c'est la vitesse de pénétration.
Sans parler des GPS.
Sans parler du GPS, sans parler de l'usage d'Internet, mais avec des vitesses de pénétration qui me font dire aussi que la quantité d'événements qui se passent en une année... confirme cette dimension d'accélération du temps dont avait parlé Virilio, par exemple.
Vous pensez que le renseignement devient l'arme décisive, absolue, du XXIe siècle ?
Le renseignement, en tous les cas d'un point de vue militaire, c'est le pivot nécessaire à toute stratégie sérieuse. Alors, il oblige ce renseignement d'ordre sécuritaire à considérer chacun comme un peut-être pas un coupable en puissance, mais chacun comme pouvant éventuellement être impliqué dans l'organisation de menaces, notamment terroristes. Et là, il y a aussi un renversement qui s'opère. Tiens, le renseignement, les capacités techniques, l'incertitude géopolitique... pousse, mais c'est pareil pour le marketing, mais c'est une autre strate, pousse à considérer chaque individu et les capacités à pouvoir récolter des traces à l'égard de chaque individu comme un fomenteur potentiel d'actes extrêmement dangereux.
Vous citiez Paul Virilio il y a un instant, Éric Sadin, et Virilio a été l'un des premiers à attirer l'attention sur la vidéosurveillance. Et il se trouve qu'elle ne cesse, grâce à sa légèreté, à sa discrétion, à son invisibilité, de se développer aujourd'hui.
Elle ne cesse de se développer. De surcroît, alors il y a une pression politique, une pression publique qui souvent pousse les élus en France, mais en Europe et un peu partout dans le monde, à étendre les circuits vidéo dans les espaces urbains qui ne cessent de se densifier. Et à la fois, alors la vidéosurveillance aussi est de plus en plus liée à des logiciels de reconnaissance, de reconnaissance de posture déviante, c'est une notion extrêmement douteuse, complexe, qui mériterait au moins de la délibération politique. Et à la fois, j'insiste souvent sur le fait que très souvent, on a tendance à se focaliser, c'est le cas de le dire, sur l'importance de la vidéosurveillance, parce qu'elle est visible, elle est aussi de moins en moins visible, bien qu'il y ait des obligations légales de la signaler dans les espaces publics. En tous les cas, elle est de plus en plus intégrée. C'est un phénomène comme ça de 10 ans.
Au Royaume-Uni, notamment.
Pardon, au Royaume-Uni. Mais bon, la France n'est pas épargnée, loin de là, par la vidéosurveillance. Alors, moi, sur la vidéosurveillance, j'ai envie de dire, il y a des forces de police dans la rue, personne n'est choqué par ça, a priori. Qui ait des yeux électroniques, moi ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est que quand on l'imagine comme une parade à toutes les angoisses et à toutes les risques possibles, on installe ça comme si ça allait pouvoir établir un rempart de qualité. Mais avec la vidéosurveillance, la chose sur laquelle je voudrais juste insister rapidement, c'est que ce n'est pas le cœur de la surveillance contemporaine. Souvent, on se focalise sur la vidéosurveillance. Le cœur de la vidéosurveillance, ce sont les bases de données, toutes ces données qui se constituent, une fois encore, relativement à nos comportements et qui sont traitées avec une sophistication de plus en plus qui tend en quelque sorte à une sorte de perfection.
Mais tout de même, la vidéosurveillance a acquis une certaine légitimité à la suite des attentats de Londres.
Absolument. Londres 2005, alors on parlait de rupture. Il y a une rupture qui s'est opérée, c'est-à-dire que les auteurs des attentats terroristes de juillet 2005 ont été retrouvés en partie grâce à la vision postérieure, tout de suite après les événements, des fichiers vidéo. Et on a retrouvé les personnes qui ont commis les attentats. On a retrouvé leurs images, leurs itinéraires. Et ça a été une sorte de... Alors, Londres était, à la fois en 2005, était la ville la plus quadrillée sur la planète avec Manhattan. Et à la fois, cette efficacité à pouvoir retrouver les auteurs de des attentats a concouru à ce que les polices du monde entier poussent leurs élus, les politiques, en tout cas dans les démocraties, à ce que la vidéosurveillance, les circuits se densifient dans les espaces urbains.
Est-ce que le juridique suit l'expansion de ces nouveaux moyens technologiques ?
Alors là, vous évoquez une question encore qui me semble capitale. C'est-à-dire, relativement à cette extension ininterrompue, moi, je ne vois que deux choses. Je vois une vigilance individuelle sur laquelle est collective, dans nos comportements, dans nos facultés d'éveiller les élus, d'éveiller l'opinion publique. Et l'autre donnée, c'est la loi. C'est la loi qui doit pouvoir tracer des limites et dire là, on peut faire certaines choses, là, on ne peut pas. Mais le fait est que la loi, notamment encore une fois de plus depuis septembre 2001 et ce protocole juridique nommé Patriot Act 1 aux États-Unis, mais aussi toutes les lois dites antiterroristes qui ont été votées en Europe à la suite de 2001, au lieu de marquer, ça c'est une tendance qui me semble importante, au lieu de marquer des limites, il y a une sorte de panique, de peur-panique, qui a encouragé dans les textes de la loi l'autorisation à pouvoir étendre et légitimer, donc d'un point de vue juridique, les procédures de surveillance. Et ça, à l'intérieur d'une sorte de paradoxe, c'est-à-dire pour protéger les citoyens, les démocraties occidentales, une sorte de double bind, de retour comme ça, en retour, à la fois qu'elles souhaitent protéger leurs citoyens, on va dire que c'est un souhait légitime, et à la fois cela induit en retour une pénétration de plus en plus efficace et intrusive dans l'intimité de chacun des individus.
Donc le législateur marche plutôt sur des œufs. Surtout parce qu'on privilégie de plus en plus l'intérêt général supposé à l'intérêt particulier qui débouche sur un scannage universel de tous les individus.
C'est exactement ça. C'est sur des œufs et la question serait... et là nous parlons, je pense, de complexité de la situation. Moi, j'entends souvent des réflexions assez simplistes. La vidéosurveillance, c'est affreux. Tout cela est horrible. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Il y a des risques, il y a une situation, il y a des technologies. Il est normal qu'une société utilise des technologies. Ce qui n'est pas normal, c'est quand des acquis historiques, supposés fondamentaux et constitutifs même de la démocratie, c'est-à-dire le respect de la vie privée, le pacte social qui veut qu'il n'y ait pas suspicion initiale à l'égard de chacun, le fait que les rapports intra-individus ne soient pas médiés par l'information continue de chacun à l'égard de chacun. Bref, toutes ces données-là ne soient pas remises en question. Or, les œufs, ces œufs dont vous parlez, à l'intérieur desquels ou sur lesquels marche le législateur contemporain français, européen, américain, c'est, je dois dire, quelle est la meilleure façon de marcher sur ces œufs-là ? Il n'y a pas de réponse univoque, pas de réponse, sinon le fait d'avoir une exigence éthique qui appelle de la délibération, qui appelle l'opposition, à marquer des limites. Et je pense que la limite, c'est ces acquis historiques sur lesquels on ne doit pas pouvoir revenir. Le respect de la vie privée, le fait que les individus sont supposés être responsables avant d'être des coupables potentiels. Or, il y a des jeux de renversement qui s'opposent relativement à ces dimensions-là.
Plus que sur la vidéosurveillance, Eric Sada, vous vouliez insister tout à l'heure sur l'importance des bases de données.
Les bases de données, c'est la duplication de chaque personne. C'est-à-dire que chaque individu, je reprends le concept de Deleuze et Guattari de corps sans organes, ou d'ombre digitale dont nous parlons. Donc, qui est une notion qui a été évoquée ces dernières années, c'est-à-dire que chaque individu aujourd'hui a une sorte de réplique numérique, réplique numérique qui accumule des informations dynamiques en temps réel relativement à tous nos comportements, et cela constitue l'arme d'identification et l'arme d'élaboration des profils. Alors aussi bien d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue marketing, c'est-à-dire que les agences marketing en savent de plus en plus sur nous et peuvent de plus en plus nous proposer des offres adaptées, qui est le rêve de cette adéquation-là entre le désir et l'offre, le rêve de plus en plus avec des offres singularisées, le rêve de toute entreprise performante.
C'est-à-dire qu'on évalue nos désirs.
On évalue nos désirs. Mais Philippe K. Dick, dans Minority Report, dont Spielberg avait fait un film, déjà avait, c'est le cas de le dire, avait anticipé ça. Le fait que le... c'est pas assez de savoir qui nous sommes. Il y a une puissance terrible de technologique. C'est pas assez. Ce qui est plus fort et plus puissant et plus fou aussi, il y a une sorte de démesure, de hors-mesure, comment dire. C'est de savoir ce que vous ne savez pas encore, mais que nous pouvons ici deviner et vous proposer et vous surprendre avec cela. Mais c'est aussi pareil d'un point de vue sécuritaire. On va intervenir. Minority Report, on intervient avant que l'acte puisse être commis et quand bien même l'acte n'était pas encore certain d'être commis. De quoi suis-je coupable? Je ne l'ai pas encore commis. Oui, mais on saisit que, et on va créer la surprise que ça peut être commis. Et c'est pareil avec les désirs. Donc c'est une autre dimension du marketing contemporain et de l'ordre sécuritaire qui apparaît.
C'est-à-dire que le paradoxe de notre condition aujourd'hui, c'est que plus on est libre, plus on est surveillé.
C'est exactement ça. C'est-à-dire, et si on reprend les analyses de Foucault, qui est notamment avec le panopticon, qui inscrivait cette puissance panoptique à l'intérieur d'un cadre restreint, clos, perfectionné, mais qui limitait la puissance de vision et la puissance d'intimidation à l'intérieur d'un cadre borné. Aujourd'hui, c'est le cadre de l'horizon libre de notre hypermodernité du XXIe siècle. Nous pouvons voyager d'aéroports, de non-lieu à non-lieu, comme dirait Marc Auger, de pouvoir s'enivrer de consommation et de plus nous sommes libres de voyager, de circuler, d'acheter, plus nous... Voilà, c'est un fait. Plus nous sommes soumis à des procédures d'observation et de traçabilité.
Donc,
c'est
un nouveau paradoxe. Stratégie de mesure et d'anticipation.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a de la mesure qui est faite et toutes ces informations avec des algorithmes extrêmement sophistiqués. Il y a des ingénieurs, il y a des comportementalistes, il y a des sociologues, il y a des militaires. Il y a toutes ces puissances-là qui travaillent à rendre possible, avec cette architecture technique que nous avions évoquée, cette capacité extrêmement étonnante, troublante, angoissante de pouvoir anticiper nos actes.
Et tout le monde est surveillé, personne n'y échappe, car les cibles sont indifférenciées.
C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que c'est chacun de nous diffuse et chacun de nous est logé sur, ces ombres, ces serveurs-là qui sont nos ombres digitales ou nos corps sans organes. Et ces données-là sont visitées par des personnes, sont visitées surtout par des robots intelligents, comme on dit aujourd'hui. Et le curseur va d'évaluation de dangerosité, d'évaluation marketing, et aussi de plus en plus. C'est une donnée à la fois inquiétante et réelle, et qui va aussi ouvrir des possibilités bienvenues. C'est là que j'évoque la dimension de complexité, aussi des dimensions d'évaluer nos états thérapeutiques et émotifs.
Mais les bases de données elles-mêmes, est-ce qu'elles sont sous contrôle? Est-ce qu'elles sont surveillées? Est-ce qu'elles sont accessibles? Est-ce qu'on peut les voir?
Alors, on ne les voit pas. C'est aussi une des données capitales de cet environnement-là de la surveillance contemporaine. C'est que non seulement on ne les voit pas, mais elles se soustraient même à la représentation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « représentons les bases de données ». Ce sont des magmas informationnels, des flux de données éparses, enfin à l'intérieur, logées à l'intérieur de serveurs éparses qui circulent à l'intérieur de réseaux extrêmement fragmentés et multiples. Et nous ne les voyons pas, nous ne les éprouvons même pas physiquement, nous ne savons même pas où elles sont logées, et elles constituent une des données capitales de notre société contemporaine.
Mais par qui sont-elles gérées, ces bases ?
Alors, elles sont gérées par des agences d'État, des agences de sécurité, des agences marketing et des organes médicaux. Voilà, c'est un peu le spectre de... Alors, tout cela n'est pas uniforme. À l'intérieur de ça, on pourrait encore subdiviser. Mais entre le marketing, le commercial, par exemple, les compagnies aériennes ont des bases de données nous concernant. La SNCF, qui ne voyage, qui ne prend pas le train, qui n'a pas un abonnement de téléphone portable, un abonnement à Internet.
La communication,
les transports. Donc, toutes ces données-là se logent à l'intérieur d'autant de serveurs. Mais il reste encore, pour reprendre une notion que nous avions évoquée, une dimension de fragmentation qui demeure.
Donc pour le moment, on essaye d'ajuster le plus précisément possible les profils. Est-ce que ne viendra pas un moment où il s'agira de pénétrer l'esprit ?
Alors ça, c'est une sorte de folie contemporaine et à venir. Et notamment par le marketing. Je dis au passage que j'évoque souvent le marketing là, qui est une puissance capitale de l'observation des comportements, qui est utilisée par les agences de sécurité. C'est-à-dire, l'observation menée par le marketing ne constitue pas un champ séparé, notamment aux États-Unis, où les agences de sécurité n'ont pas le droit de récolter elles-mêmes des données de consommation de marketing, mais peuvent les acheter. Donc, par exemple, je fais tel transport, j'effectue telle communication, telle agence marketing ou telle entreprise commerciale y a accès, mais aussi telle agence de sécurité peut y avoir accès. Et il y a une dimension vers laquelle tendent tous ces organes-là, c'est de... Alors, ça paraît complètement fou, mais une fois encore, Kadic l'avait anticipé. Il y a des choses extrêmement puissantes sur ce qu'il a saisi de notre période, Kadic. C'est-à-dire pénétrer l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit ? Ça veut dire créer des schémas, créer des algorithmes de simulation, notamment par ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire entre toutes les séquences de nos actes quotidiens, de pouvoir dégager des constantes structurantes relativement à nos comportements et induire des faits nous concernant. En plus, il y a le scannage des cerveaux qui est fait en laboratoire, de façon à voir comment s'opèrent nos états émotifs relativement à des produits, etc. Il y a une sorte de folie marketing, mais qui est à la fois folle et qui à la fois s'opère de plus en plus dans les pratiques.
Et vous pensez que le point de non-retour a été atteint ?
Je pense que le point de non-retour, si un jour il est atteint, et si on nomme le non-retour dans sa dimension inquiétante, c'est ce qu'on appelle l'agrégation globale de données. C'est-à-dire que toutes ces données-là, qui pour l'instant sont éparses, sont logées sur des serveurs, peuvent être un peu interopérables, peuvent être un peu échangées par des accords, quand elles pourront être agrégées d'une façon globale, qui a été un rêve américain dans les années 2002, 2003, 2004, mais qui, là encore, est frappé, et heureusement, frappé par une interdiction légale d'une façon globale sur la planète.
Surveillance globale, le livre d'Éric Sadin est publié aux éditions Climat. Du jour au lendemain, Axel Brizard, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir.